bonjour. Oui, l'intro n'était pas tout à fait la même, donc je suis un tout petit peu perdue, mais c'est pas grave. Donc, l'Oiseau des Lyres vous présente habituellement des livres. Et aujourd'hui, vous allez avoir une rencontre avec Anne-Laure Bondou, qui est venue vendredi, il y a 8 jours, rencontrer tout d'abord des élèves dans la campagne, à Brionne et au Neubourg, qui participaient au prix des dévoreurs de livres. Et ensuite, nous avons eu une soirée extraordinaire à la librairie. Et vous allez pouvoir entendre ce que nous avons réussi à enregistrer de cette rencontre. Donc, elle va répondre à une des questions que je lui avais posées sur la construction de ses récits. Comment, lorsqu'elle a commencé Les larmes de l'assassin, si tout était prévu?
J'ai essayé parce que j'ai fait des études de littérature et on m'avait appris que les auteurs avaient des plans, alors j'ai essayé de le faire. Et en fait, j'y suis jamais arrivée, enfin, ça m'a mortellement ennuyée surtout. Donc j'ai préféré finalement faire comme je le sentais. Et du coup, je prévois pas. Et une des grandes choses que j'apprécie, c'est justement les moments de surprise. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça a son revers, c'est qu'il y a des moments où je sais vraiment pas où je vais et du coup, je suis dans le noir, dans l'obscurité, je reste plantée là pendant parfois plusieurs semaines, ce qui peut être assez pénible. Mais quand on entrevoit une petite éclaircie et qu'on ressort de ces moments d'immobilité, hop, on repart et puis finalement on avance comme ça. Et les moments de surprise, de personnages inattendus qui arrivent, de solutions qui se présentent alors qu'on ne les avait pas prévues, c'est des moments très exaltants et finalement c'est ça que j'attends moi dans l'écriture. Alors que si j'ai un plan préparé à l'avance, j'ai l'impression que je ne vais pas m'amuser comme je m'amuse. Même si je n'écris pas des livres très amusants, je m'amuse quand même en les écrivant. et donc voilà, ça c'est vraiment... il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une auteure de romans qui s'appelle Hélène Gestern, qui n'écrit pas pour la jeunesse, qui écrit en littérature générale chez Arléa, je crois. Elle a écrit plusieurs livres, je crois 3 ou 4, dont un qui s'appelle « Eux sur la photo ».
Ah oui.
Oui, vous l'avez... Qui a été assez repéré au moment de sa sortie. Et donc, on était dans un salon du livre où il n'y avait personne. Et je la vois en train de découper des tas de petits papiers, tout ça. Alors, ça m'intrigue, je vais la voir. Je lui dis « Tu fais quoi ?» Elle me dit « Je suis en train de travailler sur mon roman. » Je dis « Ah bon, avec tous ces petits papiers, qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle me dit « j'ai pas mon ordinateur, alors je fais comme si j'avais un tableau Excel. » Alors je lui dis « Ah bon, un tableau Excel ?» Elle me dit « quand je travaille, j'ai un tableau Excel et j'ai mes personnages, j'ai mes lieux, j'ai les moments de rencontre, etc. » Je vous la caricature un petit peu. Hein. Elle était... Si, elle était un peu comme ça quand même. Bon, elle était sympa, hein, mais disons, on était différentes. Et donc, elle m'a montré, elle faisait des colonnes, des recoupements, donc elle travaillait ses romans sur Excel. Elle me dit « Tu fais pas ça, toi ?» Je dis « Ah non, ça, je sais même pas me servir d'Excel, j'avoue. » Donc, je lui explique que je travaille un peu à tâtons et elle a eu l'air très surprise. Elle me dit « Mais c'est la moindre des choses de respecter le lecteur et donc de lui apporter une structure. » Alors, je me suis sentie un petit peu... ouais, pas... Je me suis demandé si je respectais mes lecteurs ou pas. Enfin bon, ça m'a un peu bousculé, ça m'a amusé plutôt. Elle me dit « Non, mais c'est parce que moi, j'écris des choses compliquées, alors j'ai besoin d'un tableau Excel. » Je me suis dit que je devais écrire des choses simples et que ça, j'avais pas besoin. Non, je plaisante un petit peu. Si elle était là, je m'excuserais tout de suite parce que, bien entendu, on a tous nos façons de travailler qui sont différentes. Mais elle est universitaire, chercheuse au CNRS en lexicographie. Donc, il y a aussi toute une formation. Hein, voilà, moi, je ne suis pas chercheuse au CNRS en quoi que ce soit. Et je fonctionne beaucoup plus à l'instinct, au feeling. Ce qui a évidemment aussi ses inconvénients. Et je les ai beaucoup expérimentés. Donc, notamment ces grands moments de doute, mais je suis en train de faire erreur, là. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, ça prend beaucoup de temps. C'est des moments désagréables à passer aussi. Mais j'ai l'impression que je serais encore plus inconfortable avec des tableaux Excel. Donc, finalement, bon.
Parce qu'il faut déjà savoir s'en servir.
Ouais, en plus, ça m'ennuie. Et donc ce roman-là, je suis partie dedans avec juste en tête une image qui était celle de deux silhouettes une très grande et très massive, et puis une toute petite, toute frêle. Et je voyais ces deux personnages qui partaient, qui s'éloignaient sur une sorte de lande très plate, très ventée, très aride. Et je me suis dit, cet homme est un assassin. Enfin, j'ai senti que c'était un assassin et qu'il tenait la main d'un enfant qui n'était pas le sien. Et que voilà, ils partaient et je ne savais pas où ils allaient. Et j'ai senti qu'il y avait dans ce binôme, dans ce duo de personnages, quelque chose et que j'allais aller le chercher en écrivant. Donc ça a été ça l'image génératrice, matrice de tout le roman. Donc le roman ne commence pas avec les deux personnages, mais ils sont vite en rapport, puisqu'on voit au départ une ferme isolée au milieu de nulle part. Ça se passe en Patagonie chilienne, donc c'est vraiment pour moi le symbole du bout de la terre. Nourri par des lectures que j'avais faites de Pablo Neruda quand j'étais adolescente, qui m'avait enthousiasmée. Parce que, ah oui, parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse, pas Excel. Mes parents sont des grands lecteurs de poésie notamment. Donc chez moi, ça ressemblait un peu à la librairie d'Annie, en quand même un peu moins chargée. ça ressemblait un petit peu quand même. Il y avait des livres partout. Et mes parents, ne sachant plus où les mettre, en mettaient également dans ma chambre d'enfant. Et c'était pas du tout des livres pour enfants, il y avait de tout. Et donc il y avait de la poésie, aussi bien que des romans, des essais, enfin voilà. Donc dans ma chambre, je stockais, enfin ils avaient stocké, tout un tas de livres qui n'étaient pas réservés à des enfants. Et je passais souvent du temps à simplement regarder les tranches des livres et à rêvasser autour des titres ou simplement de la couleur de la tranche. Il y avait beaucoup de livres de poche des années 60 avec juste les couleurs. Enfin bon, ça me plaisait en fait de rêver comme ça devant les tranches. Et puis de temps en temps, j'en prenais un peu au hasard. J'ouvrais, je regardais. Donc c'est comme ça que j'ai accédé un peu à de la littérature érotique qui s'était égarée dans la poésie et autres. Je me souviens plus du titre, mais enfin bon, c'était assez palpitant. Et j'ai aussi donc pris comme ça des poèmes, et notamment de Pablo Neruda, cet auteur chilien, qui m'a touchée. Et du coup, j'ai eu envie d'écrire sur ce bout du monde, ce Chili comme ça, très imaginaire, que Neruda m'avait transmis à travers ses poèmes. Et j'ai donc imaginé cette histoire donc dans ce Chili perdu. Et donc dans cette ferme, qui est la dernière avant la mer, avant le désert, avant rien du tout, arrive un jour un homme qui est un assassin. Il tue le couple qui vit là, et lorsqu'il voit leur enfant, qui est un jeune garçon complètement sauvage, débarquer, il ne peut pas le tuer. Et c'est la première fois de sa vie que cet homme, qui est un assassin, c'est vraiment sa fonction, est arrêté dans son geste et ne peut pas donc mettre fin à la vie de cet enfant. Et c'est le début d'une sorte d'histoire d'amour, on pourrait dire, improbable, entre cet homme sauvage, cet enfant qui n'a reçu aucune éducation, complètement sauvage lui aussi. Et au contact l'un de l'autre, ils vont découvrir que la vie a un prix, une valeur. Ils vont en fait s'aimer l'un l'autre comme un père et un fils. Donc c'est ça dont vous parliez, qui est assez étonnant. Et moi, je ne l'ai pas élaboré comme quelque chose d'étonnant. Je me suis rendu compte, alors a posteriori, parce que j'ai beaucoup parlé de ce livre, qu'il avait été probablement nourri à la fois du duo des Misérables, qui a été une lecture pour moi d'adolescente très marquante.
Et ce roman, qui à l'époque a vraiment étonné, la violence du début du roman, on avait du mal à le raconter quand on le présentait, et pourtant...
Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que ça a été un roman qui a été très remarqué, qui est sorti en fait un petit peu du lot, du flot de romans. Mais moi, j'en avais pas du tout conscience à l'époque quand je l'ai écrit, qu'il était un peu particulier dans la production jeunesse notamment, mais pas uniquement finalement, parce qu'il a été beaucoup lu aussi par des lecteurs adultes. Bon, il a une singularité. que je suis incapable de reproduire, c'est-à-dire qu'il a vraiment une place à part dans ce que j'ai écrit. Ça a été un moment d'écriture d'ailleurs assez magique, c'est-à-dire que il y a 10 ans de ça, j'étais jeune et fraîche. Et surtout, j'avais pas encore récolté les retours de lecteurs qui, après, finalement, à la fois me portent et m'encombrent. Parce qu'il y a toujours, évidemment, une double face aux choses. Et donc, à l'époque, j'ai écrit ce texte dans un élan très simple. Et j'ai perdu, je crois que c'est un peu inhérent à l'âge, à l'expérience, enfin en tout cas dans ce que j'en sais pour l'instant, c'est-à-dire qu'on perd une sorte de naïveté, de fraîcheur, et du coup, moi, ça crée un ralentissement dans ma façon d'écrire, dans l'élaboration de mes textes, et du coup, bon, ça fait des textes qui sont différents, qui sont pour moi à chaque fois une sorte de pas en avant, en tout cas de recherche, mais comme je disais tout à l'heure aux jeunes avec qui on discutait de ça, le dernier, donc Tant que nous sommes vivants, qui est paru en septembre chez Gallimard Jeunesse, enfin Gallimard tout court, hein, parce qu'ils ont gommé la mention jeunesse en considérant que c'était un texte qui pouvait accueillir un public en fait sans âge, peut-être pas non plus tellement avant 12-13 ans, hein. Je pense que c'est...
Ça dépend si c'est mon lecteur.
Oui, mais après, pour percevoir peut-être un peu le contenu, il s'agit, je pense que ouais, c'est pas tellement en dessous de cet âge-là. Mais après, en revanche, évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Et donc, ce texte-là est certainement plus foisonnant, il fait des zigzags, il a des couches superposées. Donc, il est peut-être moins... sec et aussi... alors je faisais ce geste-là, j'ai pas réussi à trouver le mot qui va avec. Bon, les larmes de l'assassin, ça fait tchac.
Voilà, et ce geste que fait Anne-Laure devant nous, qu'il est difficile de traduire en émission de radio, c'est un geste que lui ont fait les adolescents plusieurs fois pendant les rencontres pour lui expliquer qu'ils avaient besoin d'un roman qui les emportait dès le début, qui correspond, donc ce type de roman qui correspond effectivement plus aux larmes de l'assassin qu'à Tant que nous sommes vivants. Et pourtant, Tant que nous sommes vivants est un roman extraordinaire que les adultes et les ados ont goûté, mais qui a besoin d'un petit peu plus d'effort pour rentrer dedans. Et Anne-Laure nous a bien sûr, lors de cette soirée, parlé aussi du temps des miracles, de Pépite, son western plein d'humour, et puis aussi de son témoignage, L'autre moitié de moi-même, qui n'est pas un roman, qui n'est pas pour la jeunesse, qui est un témoignage qu'elle nous donne sur sa difficulté qu'elle a eue à écrire pendant tout un temps. Donc cette rencontre fut très très riche. Et je remercie, nous remercions tous Anne-Laure de nous avoir consacré tant de temps. C'est vraiment quelque chose qu'on aimerait renouveler souvent. Voilà, donc on se retrouve dans 15 jours. On aura certainement d'autres possibilités de vous donner des rencontres comme ça qui sont riches avec des auteurs, des illustrateurs. Et en attendant, n'oubliez pas, les livres s'empruntent en bibliothèque et s'achète en librairie.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.